si je peux me permettre, pouvons-nous remercier le groupe de louanges qui nous a servi ce soir simplement en les applaudissant pour le travail. Vous savez, souvent on vient dans un lieu, on écoute ce qui se passe, on ne se rend pas compte du travail qui est derrière. On arrive et on prend place et tout au plus, s'ils se sont trompés, tout le monde va relever ça. Mais toutes les heures qui sont derrière ces interprétations, etc., ça on les oublie. Et j'aime honorer ceux qui travaillent et j'aime me réjouir avec eux et les remercier de tout cœur pour ce qu'ils nous ont apporté ce soir. Merci à l'Église pour son invitation, merci pour la confiance que tu me fais, Alain. Peut-être avant de commencer, tout d'abord j'aimerais saluer chacun, chacune d'entre vous, également les amis, il y a des gens qui nous suivent également sur le net. Ce soir je suis venu, j'ai emmené avec moi également quelques livres. Le thème de la soirée c'est « Dieu agit-il encore ?» Alors c'est une bonne question et ces deux livres y répondent déjà largement. J'ai là entre autres un livre que nous venons d'éditer, je ne peux que vous le recommander. Qui que vous soyez, jeune ou âgé, je ne peux que vous le recommander. C'est la biographie de notre frère Archange Barma. Archange, eh bien, c'est un homme de Dieu que j'ai rencontré personnellement. Je me souviendrai toujours d'une soirée où il était venu. C'était un mardi, c'était en pleine semaine. Et puis, soudain, du haut de l'estrade, il dit, il y a un homme qui est là. Monsieur, vous êtes là pour la première fois. Il le montre du doigt. Il dit, vous êtes sourd de l'oreille gauche. Mais ce soir, Dieu vous guérit. Et moi, j'étais à ma place, je me dis, pourvu que ça marche. Et puis, il l'appelle sur l'estrade. Et en effet, il appelle un homme que moi, je n'avais jamais vu. Cet homme monte sur l'estrade, un peu gêné. C'est sa femme qui était croyante, pas lui. Il l'accompagnait, c'était un Hollandais. Ils étaient de retour des vacances, ils s'étaient arrêtés pour assister au culte. Et puis là, cet Hollandais est interpellé publiquement. Et il est guéri publiquement, puisqu'il était sourd de l'oreille. Et ce soir-là, retrouvé, eh bien, Louis. Mes amis, je dois dire, ce livre m'a fait personnellement beaucoup de bien et je vous le recommande. Il vient de sortir, il est tout frais. Et bien sûr, un livre que je recommande toujours, c'est le livre du pasteur Jean, de mon père, qui est un homme de Dieu, duquel je n'ai plus besoin de parler. C'est des centaines, des milliers de personnes qui ont été guéries. Et nous bénissons simplement Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de confirmer sa parole. C'est une grâce. Alors vous allez me dire, ah mais il fait de la pub, j'aimerais juste vous rassurer, je ne touche pas un centime sur ce qui est vendu, mais ce qui est vendu nous sert à refaire des émissions de télévision, nous sert également à réinvestir pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et je termine par un CD, je vais peut-être le laisser au technicien, il vous le fera passer tout à l'heure. Alors ce CD est très particulier puisque la question est, Dieu agit-il aujourd'hui ? Eh bien, j'aimerais dire que Dieu agit non seulement en touchant des personnes, en guérissant des corps, mais Dieu agit en touchant des quartiers. Nous avons actuellement un travail qui se fait dans les rues et nous touchons 1 millier d'enfants toutes les semaines dans les rues. Au point maintenant où les politiques de la ville commencent à honorer ce travail-là. Alors qu'ils nous ont ignorés pendant des années, maintenant c'est les politiques eux-mêmes qui commencent à faire l'éloge de ce travail. Et entre autres ce CD... C'est un CD qui est écoutable par tout le monde. Les jeunes y trouveront leur compte, mais un vieux comme moi y a trouvé son compte aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que 70% des gamins qui chantent là-dessus sont des petits musulmans. Et ils chantent la gloire du Seigneur. Et ça se passe en France, pas loin d'ici. Le Seigneur agit aujourd'hui encore. Et il le fait de manière merveilleuse. J'en profite pour vous passer les salutations de nos différentes églises, bien sûr en France, mais également à l'étranger, et entre autres en Algérie, où nous vivons quelque chose de particulier, puisque l'église qui se trouve en Kabylie vient maintenant de construire une salle de 1000 places. Et c'est la première fois en un siècle que l'État algérien a donné une autorisation de construire à une église évangélique. Ça fait un siècle que ça n'avait plus eu lieu et nous bénissons Dieu pour ça. Nous bénissons Dieu pour cela. Cela bouge et c'est pour moi un très très grand sujet de joie de voir que là où l'évangile est annoncé, il se produit quelque chose. Et je me réjouis d'entendre qu'il se produit aussi quelque chose ici à La Chaux-de-Fonds. Ne criez pas tous en même temps, on pourrait s'effrayer. Dites peut-être déjà à votre voisin et votre voisine, il se passe quelque chose à La Chaux-de-Fonds. Il se passe quelque chose. Dieu veut faire quelque chose à La Chaux-de-Fonds. Il veut le faire avec vous et au travers de vous. Nous avons la joie actuellement de voir l'œuvre avancer. Nous sommes en pleine construction, on est en train d'agrandir nos bâtiments. Bientôt 3000 mètres carrés vont se rajouter à ce qui est déjà là et nous bénissons le Seigneur. J'ai beaucoup de plaisir maintenant. Les croyants me disent, on est obligé de se lever plus tôt le dimanche matin pour trouver une place. Et ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe lorsque les gens sont obligés d'arriver à l'heure pour trouver une place, parce que sinon, quand l'heure est arrivée, c'est trop tard. Et nous bénissons le Seigneur de ce que la parole de Dieu est également annoncée, se répand un peu partout, également par le net. Nous avons actuellement environ 10 000 personnes qui suivent le culte tous les dimanches matins. Et vous savez ce qui est beau, c'est que les personnes suivent le culte, sont devant leurs écrans. Alors, certains parce qu'ils sont dans des régions où simplement ils n'ont pas d'église, d'autres parce qu'ils sont malades. Et là, je viens de recevoir cette semaine, le 20 janvier, un courrier d'une internaute. Je vais juste vous le lire parce que c'est tellement encourageant. Elle dit la chose suivante, « Cela fait 10 ans que je souffrais toute la journée et la nuit. Des médecins, j'en ai vu au moins 15. J'avais un corset pendant des mois et personne ne trouvait ce que j'avais jusqu'au jour où l'on m'a fait une scintigraphie et où l'on a détecté la maladie de Paget, en sorte le cancer des os qui s'effrite toujours plus et cela ne se guérit pas. C'était comme si des milliers de petites bêtes me rongeaient 24 heures sur 24 les os. Des douleurs de plus en plus insoutenables. Je marchais à peine, encore et toute courbée, me tenant partout. Parfois je tombais, car les forces me manquaient. Je priais tous les jours et je disais au Seigneur dans mes pleurs qu'il soit fait selon ta volonté. Le dimanche 3 novembre 2013, le pasteur, lors du culte, a donné une prophétie qui disait « Une personne devant son écran, qui ne sort plus de son lit et qui ne peut plus marcher tant les douleurs dans ses os sont terribles. » Et puis il a continué en disant « C'est une sœur, une femme, le Seigneur l'a guérie à l'instant. » J'ai tellement senti que c'était pour moi que je me suis aussitôt levé de mon lit et je me tenais droite, debout comme un i. Je suis tombé à genoux pour remercier Dieu. Je pleurais, je riais en même temps de joie et de bonheur. Quand les gens qui me connaissent m'ont revu, ils ne pouvaient croire tant le changement était visible. De 90 ans, j'étais revenu à mon âge, 69. Gloire éternellement à notre Dieu, trois fois saint. Depuis, je remarche et je peux sortir. Je n'ai plus de douleur. Elle est totalement guérie. Alors si vous me demandiez ce soir si Dieu agit encore, il suffirait que je laisse parler ces différentes personnes qui elles-mêmes vous indiquent qu'il agit aujourd'hui encore. Mais j'aimerais dire la chose suivante, oui je crois que Dieu agit et je le crois profondément. Cette femme a été guérie, cette semaine je recevais un autre témoignage de guérison et nous en recevons constamment des personnes qui quittent leur lit, des personnes qui se mettent à marcher alors qu'elles ne marchaient plus, etc. Mais je crois que Dieu agit là où on le laisse agir. Je crois que Dieu intervient là où on lui permet d'intervenir. Je crois que Dieu fait de grandes choses là où on lui permet de faire de grandes choses. Et si les uns vivent quelque chose, d'autres ne vivent rien. Parfois dans la même ville, parfois dans la même région, parfois dans le même pays. Et c'est ce que je voudrais voir ce soir avec vous, pendant un instant. Voyez-vous, l'action de Dieu dépend également de l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. L'action de Dieu dépend de la disposition du cœur que nous allons avoir. L'action de Dieu dépend de la manière dont vous allez lui permettre d'agir. Il y a eu la semaine de prière qui vient de passer pour les différentes églises, et le thème qu'ils avaient choisi était intéressant, puisqu'il est dit « Et parce que mon serviteur Caleb, dans Nombre 14, verset 24, a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Parce qu'il a été animé d'un autre esprit. L'esprit qui vous anime déterminera ce qui se passera ou ce qui ne se passera pas. L'esprit qui vous anime déterminera si Dieu agira, oui ou non. De l'esprit qui vous anime dépend également votre manière de penser. De l'esprit qui vous anime dépend votre manière de parler. De l'esprit qui vous anime dépend votre manière d'agir. Et en conséquence, l'action va engendrer toujours des répercussions. Et nous récoltons finalement le fruit de nos paroles. Et nous récoltons le fruit de nos actions. Maintenant, si nous avons compris que l'esprit qui est en nous détermine la manière dont nous allons agir, il est évident que nous mesurons alors le sérieux avec lequel nous devons aborder cette question-là. Parce que de l'esprit qui nous anime dépendra également l'action, non seulement la nôtre, mais celle de Dieu. Et je voudrais quelques instants voir cela avec vous. Malheureusement, je dois partir relativement rapidement, comme je le disais tout à l'heure au pasteur, puisque la cousine de ma femme s'est tuée dimanche dans un accident de voiture. Et là encore une fois, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous ne savons pas quand nous partons. J'étais confronté il y a quelque temps à un homme qui me disait, « Pasteur, vous savez, c'était terrible. Nous avions été dans une fête de famille. » Et puis dans cette soirée-là, il y avait un moment où tout le monde dansait et je dansais avec ma femme sur la piste. Et tout d'un coup, pendant que je dansais, elle se laisse aller, qu'elle se laisse de plus en plus aller. Je me rends compte que c'était plus normal et en fait, elle est décédée dans mes bras pendant que nous dansions. Elle avait 45 ans. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le souffle qui suit ne nous appartient pas. L'heure qui suit ne nous appartient pas. Nous montons dans notre voiture. Et puis, nous sommes déjà en train de réfléchir à ce que nous ferons quand nous arriverons, mais personne ne nous dit si nous arriverons. Cette cousine, dimanche, est montée dans son véhicule et évidemment, je ne pense pas qu'à un seul moment, elle eût imaginé que c'était son dernier voyage et surtout qu'elle ne le terminerait pas. Mais tout ce que cela m'amène à penser et à dire, c'est alors qu'il est temps, alors que le souffle de vie m'est encore accordé, je veux chercher ce qui est l'essentiel. Et je veux que l'esprit qui m'anime permette à celui que je sers de toucher, de guérir, de libérer et de manifester sa gloire où que j'aille. Mes amis, il y a dans ce texte, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Voyez-vous, lorsque vous reprenez le contexte dans lequel cette phrase a été dite. Lorsque vous remettez toutes les choses à leur place, eh bien vous vous souvenez que Moïse va envoyer 12 hommes explorer le pays promis. Pardon, les 10 hommes. Mais j'aimerais rappeler que ces 12 hommes auparavant eh bien étaient en Égypte. Ces 12 hommes avaient tous connu la même situation. Ces 12 hommes avaient connu l'esclavage. Ces 12 hommes avaient connu la souffrance avec le peuple hébreu. Et ces 12 hommes vont ensemble également vivre la délivrance extraordinaire. C'est les plaies qui vont frapper l'Égypte jusqu'à la dernière où les Égyptiens eux-mêmes iront jusqu'à leur donner leur or pour qu'ils partent. Peut-être que ça m'arrivera ce soir. Peut-être que pour vous débarrasser de moi, c'est ce que vous ferez. Je suis pas contre, hein. Mais c'est vous montrer à quel point d'exaspération et à quel point de désespérance étaient arrivés les Égyptiens. Et ça montre également à quel point Dieu était intervenu et avait agi. Ces 12 hommes vont quitter ce pays et puis vont expérimenter quelque chose d'extraordinaire. C'est le miracle de la séparation de la mer des roseaux. C'est quand même pas peu. Celui qui vit cela ne peut pas dire qu'il ignore que Dieu existe. Les 12 vont le vivre. Les 12 vont l'expérimenter, les 12 vont le voir, les 12 vont vivre la même délivrance. Et pourtant, alors qu'ils savent que le Dieu qui les a sortis d'Égypte est avec eux, alors qu'ils savent qu'ils entrent là dans le pays que lui leur donne, et qu'à partir du moment où vous avez vécu ce qu'ils ont vécu, vous vous dites que rien ne peut vous empêcher de conquérir ce pays, eh bien les comptes rendus seront totalement différents. Et quand vous lisez les comptes rendus et quand vous regardez l'attitude des uns et des autres, vous êtes à même de vous poser la question, mais est-ce qu'ils ont visité le même pays? Écoutez un peu leur conclusion dans le livre des Nombres. Avez-vous votre Bible ce soir? Je ne parle pas aux amis qui viennent pour la première fois, qui n'en ont jamais eu. Vous, eh bien, le pasteur Bilecki se fera un plaisir de vous en offrir une. Et moi, je me fais un plaisir d'en offrir une avec lui. Écoutez, ils diront, le pays où tu nous as envoyés à la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel, et en voici le fruit. Mais, et c'est là que ça commence, mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, avec les Suisses, et les Cananéens,
habite près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Un peu plus loin, ils diront, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et lorsque le peuple entend un tel compte-rendu, il est évident que ça l'emballe pas. Mais voici le second. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Ils étaient au même endroit. Ils sont sortis du même esclavage. Ils ont expérimenté la même puissance de Dieu. Et pourtant, ils en arrivent à des conclusions aussi différentes que ça. Les uns se voient comme des sauterelles. Les autres voient leurs ennemis comme de la pâture. Enfin, ça fait quand même une sacrée différence. Pourquoi une telle différence de vision? Différence que vous pouvez retrouver parmi ces 12 hommes, mais vous pouvez retrouver ce genre de situation dans un couple entre un homme et une femme. Vous pouvez retrouver ça dans une même église. Vous pouvez retrouver ça dans une même ville et un même pays. Une différence de vision, pourquoi? Parce qu'une différence d'esprit et d'état d'esprit. Deux esprits différents. Vous savez, quelqu'un disait un jour, la différence entre David et les soldats qui voyaient Goliath était la suivante. Lorsque les soldats virent Goliath, ils se dirent les uns aux autres, il est trop grand, il est trop lourd, il est trop large pour qu'on puisse le vaincre. Et David viendra, il dira, hey, c'est super, il est tellement grand, il est tellement lourd, il est tellement large que tu ne peux pas le louper. C'est un état d'esprit. Deux esprits différents animaient ces 12 hommes. Permettez-moi de revenir sur l'esprit qui animait les 10 espions, qui est malheureusement un esprit très commun. Et je parlerai de l'esprit d'incrédulité. Car c'est exactement de cela qu'il s'agit, l'incrédulité. Voyez-vous, je dirais que la proportion entre les gens qui croient et les gens qui ne croient pas est à peu près équivalente à celle que l'on retrouve sur 12 hommes. Vous en avez 10 qui sont incrédules. Et l'incrédulité est beaucoup plus fréquente que la foi. Même, pardonnez-moi, dans les églises. Entre les gens qui pensent avoir la foi et les gens qui ont la foi, il suffit d'une épreuve pour vous révéler les uns et les autres. Et tout d'un coup, vous découvrez que celui qui parfois même faisait de grandes déclarations n'a pas la foi qu'il prétendait avoir, là où d'autres parfois restaient plus discrets, eh bien, sont fermes comme des rocs. Deux états d'esprit. Premier, l'incrédulité. Le problème des espions, c'est qu'à aucun moment dans leur rapport, ils ne font une relation à Dieu. Jamais. Jamais. En d'autres mots, ils ont réduit Dieu à leur intelligence et leur propre capacité. Et c'est un reproche que Dieu leur fera d'ailleurs. Combien de temps encore ne les ai-je pas délivrés? N'ont-ils pas vu ma gloire? Mais ils ont réduit Dieu à ce qu'ils sont eux-mêmes. Et si vous réduisez Dieu à ce que vous êtes vous-même, alors là, vous ne voyez plus que les obstacles. Vous n'allez que vivre d'impossibilité, de tout ce qui vous est inaccessible. Et tout vous effrayera. Ces 10 hommes sont 10 hommes effrayés. Pourquoi? Parce qu'ils ont réduit Dieu aux capacités de leur chair. Ils ont finalement réduit Dieu à ce qu'ils sont. Et là où vous réduisez Dieu à ce que vous êtes, il ne se passe rien. Et si vous me posez la question, Dieu agit-il encore aujourd'hui? J'aimerais vous dire, là où les gens ont réduit Dieu à ce qu'ils sont eux, il n'agit pas. Et cela va plus loin. Vous savez, souvent nous abordons juste la question de l'incrédulité en nous disant, être incrédule, c'est ne pas croire et ne pas agir en conséquence. Mais ça va plus loin. Écoutez ce que l'Éternel lui-même dit à Moïse. Il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Il y a là un terme extrêmement fort, c'est le terme méprisé. Écoutez, alors si vous prenez la définition du dictionnaire, elle est très simple. Elle dit sentiment, attitude, traduisant que l'on juge quelqu'un indigne d'estime, d'égard ou d'intérêt. Non seulement on ne croit pas, mais on est en train, par notre manière d'agir, de dire à Dieu que nous ne comptons pas sur lui. En fait, nous n'avons pas d'estime pour qui il est. Lorsqu'on vous méprise, c'est qu'on ne tient aucun compte de ce que vous dites, ni de ce que vous êtes. Il n'y a rien de plus terrible que d'être méprisé. Lorsque des hommes ou des femmes ont été méprisés, ça engendre en eux une souffrance terrible parce qu'elle est liée au rejet. Le mépris et le rejet vont de pair. Lorsque nous sommes incrédules, non seulement nous ne croyons pas, mais nous méprisons Dieu. Et le mépris de Dieu est quelque chose de terrible. Regardez, le mépris de Dieu va mener plus loin, il mène à la rébellion. Regardez ce que dit Josué et Caleb. Ils diront, ne vous rebellez pas contre lui. Lorsque vous ne tenez pas compte de Dieu ni de ce qu'il dit, ça vous amène à faire le contraire de ce qu'il dit. Le problème d'Adam et d'Ève, c'était ça. Ils ont méprisé ce que Dieu leur avait dit. C'est ce qui les a amenés à faire le contraire. Quelqu'un a dit, elle mordit la pomme et elle eut plein de pépins. Alors je vous rassure, c'est pas dit que c'est une pomme. Hein. Mais les pépins, on les a eus. Ceux-là, on les connaît. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé. Lorsque vous méprisez Dieu, vous êtes exposé à toutes les tentations. Puisque pour résister à la tentation, il faut se soumettre à Dieu. Pourquoi tant de croyants faibles? Pourquoi tant de croyants qui tombent dans le péché? Parce qu'ils méprisent Dieu. Et le mépris de Dieu les amène à agir en dehors de sa volonté. Évidemment, ils vont vous trouver toutes les explications du monde pour vous justifier l'injustifiable. Mais c'est le mépris. Le mépris de Dieu, c'est finalement agir, penser et vivre sans tenir compte de lui. C'est ce qui mène un pays comme la nation française à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est une catastrophe. Écoutez, je m'étais fait une petite réflexion sur la situation actuelle en France et j'en étais arrivé à une petite... Allez, je vous livre une petite réflexion de 2 secondes. Hein. Voilà une aberration. Nous avons un président de la République qui n'a jamais été marié, qui avait comme concubine une femme qui elle-même n'était pas encore divorcée, qui la trompe avec une tierce personne, tout en étant le chef d'un État qui interdit la polygamie et qui prône le respect des femmes. C'est quand même énorme. C'est quand même extraordinaire. Quand vous méprisez Dieu, vous faites tout et son contraire. Le mépris de Dieu nous emmène aujourd'hui à enseigner à l'école la théorie du genre. J'ai un membre de l'église qui est prof de musique qui vient me voir et qui me dit « Samuel, tu te rends compte, ma fille de 10 ans, l'institutrice les a pris ensemble et leur a expliqué que, eh bien, elle ne pouvait pas encore savoir si elle deviendrait une femme ou un homme à 10 ans. J'ai des psychiatres dans l'église. Ils m'ont dit, nous nous fabriquons des bombes à retardement. Une société malade. Des enfants sans repère. Et je peux vous dire en tant que pasteur que nous les recevons déjà. Des enfants perdus. Qui ne savent plus où ils en sont. Ce qui mène à quoi? À des enfants de 10 ans qui se suicident. Nous avons eu dans notre ville encore récemment une petite fille de 10 ans qui s'est jetée, je crois que c'était du 10e étage. Elle s'est suicidée. Elle n'est pas tombée accidentellement. Plus de repères. Pourquoi? Parce que on méprise Dieu. Enlevez Dieu et tout ce que Dieu fait disparaît avec lui. Qu'est-ce que les ténèbres? Les ténèbres, c'est juste l'absence de lumière. Si on appuie ce soir sur l'interrupteur, eh bien, en 2 secondes, nous serons dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de quelque chose. Les ténèbres n'ont pas une source en eux-mêmes. Les ténèbres, c'est l'absence. Enlevez la lumière, et c'est les ténèbres. Enlevez Dieu, et c'est les ténèbres. Non pas seulement dans une société, mais dans la vie d'un homme. Alors Dieu agit-il? Oui, il agit là où on lui permet d'agir.
Il ne s'impose pas. Il se propose à quiconque veut de lui, le cherche de tout son cœur. Quelles sont les conséquences? Eh bien, la Bible appelle ça l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi? Eh bien, c'est cet état d'esprit dans lequel on agit, mais sans tenir compte de ce que Dieu dit et fait. Sans tenir compte des directives qu'il nous donne, comme si nous nous étions faits nous-mêmes. Comme si nous étions venus seuls sur la terre. Mes amis, si ce soir je vous disais que ma montre ici, eh bien, non, c'est pas une montre suisse. C'est une montre hongroise. Si je vous disais ce soir, chers amis, cette montre est venue par le fruit du hasard. Un jour, du métal s'est rassemblé dans mon jardin. Puis soudain, un mécanisme s'est mis à fonctionner. Et puis, du cuir s'est rajouté. Non mais si je vous racontais un truc comme ça, qu'est-ce que vous me diriez? Il est quoi? Faux, oui, vous avez raison. Je vous l'accorde, il est fou. Il est fou. Ce qui est paradoxal, c'est que les mêmes qui me traiteraient de fou sont les mêmes qui nous disent que nous, qui sommes des milliards de fois, pas des millions de fois, des milliards de fois plus compliqués que cette montre, nous sommes le fruit du hasard. Quel paradoxe. Faut-il être fou pour prétendre que nous sommes le fruit du hasard? Faut-il être fou de ne pas voir l'œuvre de Dieu? Et pourtant, les 10 espions étaient aussi fous que ça. Ils venaient de voir des miracles, ils venaient de passer la mer rouge, ils avaient vu Dieu à l'œuvre. La différence, c'est que finalement, le miracle n'avait jamais rien produit en eux. Moi, je rencontre des gens qui me disent « nous voulons voir des miracles ». Ça ne les change pas. Ça ne leur a jamais changé l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Finalement, les miracles, ils n'en voulaient que pour leur bien-être. Ah, des miracles, ils en voulaient pour sortir d'Égypte. Mais les miracles ne les ont pas ramenés à rencontrer Dieu personnellement. On peut voir des choses extraordinaires. Vous savez, je me suis retrouvé en Afrique devant... Nous avions eu en 3 jours jusqu'à 80 000 à 100 000 personnes. On a vu les aveugles voir, les boiteux. J'ai vu les gens se lever des chaises roulantes. On l'a vu, nous étions là. Mais finalement, ce n'est pas le miracle en soi qui est important. C'est de rencontrer celui qui le fait. Le problème des 10 espions, c'est que finalement, dans leur état d'esprit et dans leur esprit, ils n'avaient jamais rencontré Dieu. Ils avaient vu Dieu à l'œuvre, mais ils ne l'avaient pas rencontré. Vous pouvez voir Dieu à l'œuvre sans le rencontrer. Parce que le rencontrer exige une démarche personnelle. Le rencontrer signifie « je veux te connaître ». Le rencontrer vous implique. Il ne s'impose pas. Personne n'est enlevé au ciel. Quand on arrivera là-bas, il n'y en aura pas un qui dira « moi je suis là, j'ai été kidnappé ». Ah bon ? Ceux qui seront là-bas seront là-bas parce qu'ils ont choisi d'être là-bas. Et ceux qui n'y seront pas, n'y seront pas parce qu'ils auront choisi de ne pas y être. Vous savez, souvent les gens me disent, et on se réfugie derrière des phrases bidons, telles que, monsieur, vous savez, je suis croyant mais non pratiquant. C'est rassurant. Et, d'un côté, on se dit, je suis croyant, donc ça nous rassure un peu. Non pratiquant, ça nous arrange. Mais le fond, allez, si vous creusez un tout petit peu cette phrase-là, elle n'a pas de sens. Parce que si vous me dites que vous êtes croyant, donc vous croyez ce que Jésus a dit, vous croyez ce que Dieu dit. D'accord. Mais vous ne le pratiquez pas. Donc vous êtes croyant, désobéissant. Ça, c'est plus juste. Ou alors vous êtes non-croyant. Mais à un moment donné, il faut se dire la vérité. Et aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements. Ces hommes avaient vu Dieu à l'œuvre, mais ils ne l'avaient pas rencontré. Conséquences, regardez les conséquences. L'un des fruits, c'est que non seulement eux-mêmes sont incrédules, mais ils vont contaminer le peuple. Au stade où ils vont emmener ceux qui les entourent à vouloir même lapider Moïse et arriver jusqu'à la conclusion suivante et absurde, retournons en Égypte. Bah, tu parles que les Égyptiens n'auraient fait de la viande hachée. Hein. Eux, ils avaient tous les premiers-nés qui étaient morts. Ils ne demandaient pas mieux les autres. Hein. Ils aiguisaient les armes depuis longtemps. Aussi absurde que ça. Retournons en arrière. Ils ont contaminé. Mes amis, votre état d'esprit va contaminer ceux qui vous entourent. Vous allez ou communiquer la foi ou alors vous allez communiquer le découragement. Du temps de Gédéon, lorsqu'il fallait partir à la bataille, l'un des conseils que Dieu avait donné à Gédéon, c'est ceux qui ont peur, envoie-les garder les valises. Vous avez déjà remarqué, vous avez des gens
Si vous n'avez pas le blues, avant de les rencontrer, une fois que vous avez parlé avec eux, vous partez avec le cafard et une dépression. Mais même dans les églises, hein, vous arrivez chez eux et tout d'un coup, tout devient noir. Rien ne va. Rien ne va. Les chants ne vont pas. La sono ne va pas. La lumière ne va pas. Le pasteur ne va pas. Il n'y a rien qui va. Tu arrives chez eux en forme, avec le moral, tu pars. Vous en avez d'autres, vous les rencontrez. Même si vous êtes malade au fond du trou, une fois qu'ils ont passé, vous relevez la tête, vous dites tout est possible. Et quoi la différence? C'est l'esprit qui les habite. Moi j'aime les gens qui vous contaminent comme ça positivement. Le pasteur a peur d'être atteint par une bénédiction. Moi je bénis Dieu pour le père que j'ai. Un homme de Dieu, je dirais dans nos pires défis, il savait toujours regarder en haut et nous dire « ne crains pas ». Je ne vous dis pas qu'il n'a jamais éprouvé de lutte, mais constamment ne crains pas, regarde en avant. Lorsque vous êtes avec des hommes et des femmes comme ça, lorsqu'une église est remplie d'hommes et de femmes comme ça, quand vous repartez le dimanche matin, vous êtes plein de feu. Vous en avez certains quand ils vont visiter un malade. Quelle est votre maladie? Alors déjà, rien qu'à voir votre tête, il a peur. Puis alors, ils n'ont pas fini. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ma grand-mère, elle est morte de cette maladie. Mais elle a hurlé encore 15 jours de douleur avant d'arriver enfin à expirer. Tu vois le malade? Il est réconforté, hein? Surtout quand tu pars. Et mais nous rions, mais c'est exactement l'état de ces gars-là. Il résume en 2 secondes du lait, du miel, oui, il y en a, mais, et puis là ça commence. Mais des géants, mais des murailles, mais des ceci, mais des cela. Et puis ils vous disent tout ce qui est impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Parce qu'ils méprisent Dieu. Parce qu'ils le réduisent à ce qu'ils sont eux. Mes amis, heureusement que Dieu est au-dessus de cela. Heureusement. Deuxième conséquence, non seulement il contamine les autres, malheureusement, mais regardez, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ça, c'est grave. Combien de chrétiens sont animés par l'esprit du monde et en même temps frustrés que rien ne se passe dans leur... frustrés. Combien sont animés par l'incrédulité? Combien ont réduit l'Église plus qu'à une espèce d'association où tout doit surtout être démocratique, sacro-sainte démocratie, où ce n'est plus le berger qui peut conduire, mais c'est les moutons qui lui donnent la direction. Et on s'étonne qu'on ne progresse plus. Et on s'étonne que Dieu n'agit plus. Parce que nous avons abandonné les principes de la parole. Mes amis, ce soir, ne dites pas seulement « j'ai la foi ». Parce que ceux qui déclarent qu'ils ont la foi ne m'ont jamais impressionné. C'est ceux qui le traduisent dans leurs actes. Votre foi se traduit par les priorités dans votre vie. Votre foi se traduit par votre manière d'être. Votre foi se traduit par les choix que vous avez faits dans votre vie. Dire « je crois », c'est qu'un mot. Mais si ce mot ne se traduit pas concrètement, alors il ne reste malheureusement qu'un mot et ces personnes passeront une vie en disant « mais Dieu n'agit plus ». J'ai un jour une dame qui vient me voir et elle me dit « pasteur, pasteur, priez pour moi, je ne dors plus, je ne dors plus ». Alors évidemment, je lui dis « ben oui, je vais prier pour elle, si elle ne dort plus, c'est tellement pénible quand on ne dort plus ». Je lui dis « pourquoi avez-vous perdu le sommeil ?» Et elle me dit « voyez-vous pasteur, je... avec mon mari, nous n'arrivons pas à finir les mois. » J'ai dit, ah bon, mais vous êtes au chômage, vous êtes dans une situation difficile. Elle dit, non, on a un salaire tous les deux. Je dis, ah bon, mais vous gagnez quoi? Elle me dit, 5000 euros. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, mais vous comprenez, on a bâti, on a grandi, on a embelli la maison, on a investi, et maintenant, il faut rembourser, et nous n'arrivons quasiment plus à finir. Priez pour que Dieu nous aide. Et là, j'ai dit, écoutez, madame, je vais prier pour que vous vous repentiez. Elle me dit, mais comment? J'ai dit, madame, vous me faites la démonstration par les priorités dans votre vie que Dieu, il est là à la dernière place. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre propriété, votre maison. Et Dieu n'est là que pour vous aider à réaliser vos intérêts personnels. En fait, vous ne connaissez que Dieu par intérêt.
Vous ne cherchez pas Dieu pour Dieu. Vous ne cherchez pas son royaume. Vous le cherchez pour qu'il vous aide à vous établir ici. Vous me dites que vous avez la foi, mais quelle foi? Vous mettez toute votre force, tout votre temps, toute votre vie dans une maison, un gazon que vous laisserez tôt ou tard. Au mieux, vous le brouterez par en dessous. Chers amis, ce n'est pas tout de dire « je suis croyant ». Ça se traduit où? Dernièrement, j'ai un de mes amis qui vient me voir et puis il me dit « tu vois Sam, j'ai là une opportunité ». Il est déjà cadre dans une entreprise, mais son patron avait choisi d'en faire l'un de ses bras droits. Et puis j'étais content, je me suis réjoui avec lui. Je dis « mais waouh, c'est super ». Il me dit « ouais, non, mais j'ai refusé ». « T'as refusé ?» Il dit « oui ». Je dis mais pourtant, tu versais un salaire conséquent ». Il dit « oui, il y avait une augmentation à la clé, je ne sais plus si c'était 500 ou 1000 euros, je ne sais plus, l'augmentation ». Bon, pour vous en Suisse, ce n'est pas beaucoup, mais pour nous, de l'autre côté de la frontière, ça, 1000 euros par mois, ça change quand même. Hein. Et puis, je lui dis « mais t'as refusé ?» Il dit « tu vois Sam, j'ai fait un petit calcul, vite fait, j'ai calculé le temps que j'investissais pour le royaume de Dieu. Et j'ai calculé le temps qu'allait exiger ce nouveau poste. » Il dit « là, j'ai le salaire qu'il me faut pour vivre, je vis convenablement et je fais vivre ma famille et mes enfants. Et si j'accepte ce poste, je vais gagner plus, mais tout le temps que j'avais pour le Seigneur, je peux le mettre de côté. » Il dit « alors, mon choix a été vite fait, j'ai préféré renoncer. » Eh bien ça m'impressionne. Parce que là, la foi est démontrée. Et quelques temps plus tard, il est venu me voir, il me dit « Sam, heureusement que j'ai dit non. » Je dis « pourquoi ?» Il dit « parce que l'autre qui a dit oui, il est tellement stressé qu'il a maintenant de l'eczéma partout. » Moi, je suis triste pour l'autre. Mes amis, la foi, c'est concret. Ça se traduit constamment. Combien de chrétiens sont privés de l'intervention divine? C'est une des conséquences. Ces 10 espions n'ont pas vu Dieu à l'œuvre comme Josué et Caleb. C'était terminé. Tout ce qu'ils vont voir, c'est un désert dans lequel ils vont tourner. Oui, ils verront la nuée. Oui, ils verront la colonne de feu la nuit. Mais eux ne vivront plus. Si ce n'est d'un miracle que Dieu accorde à tous, la manne quotidienne. Privé. J'aimerais vous dire que le Dieu que nous servons est toujours encore le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais vous dire qu'il ne change pas. Aujourd'hui encore, il agit. Voyez-vous, lorsque je lis le témoignage de cette personne, 11 ans, tu sais quand tu es rongé dans tes os pendant 11 ans, quand tu n'arrives plus à marcher, quand la souffrance est telle, elle me disait, on lui donnait 9 tablettes de morphine par jour. Et tout d'un coup, une parole. Et cette parole te touche. Tu la reçois. Tu te lèves et tu es guéri. C'est tellement extraordinaire. C'est ce Dieu-là que nous servons. Tout à l'heure, en fin de prédication, je vous ferai passer le témoignage de Monique. Et ce que je souhaiterais, chers amis, si vous êtes là pour la première fois, ce que je souhaiterais, c'est que vous rencontriez personnellement ce Dieu que malheureusement les 10 espions ont méprisé. Ce Dieu que des milliers de personnes méprisent parce qu'ils sont plus nombreux ceux qui le méprisent que ceux qui l'honorent. Mais quand on l'honore, quelle grâce! Quelle grâce! Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. En tant que communauté, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Il agit et il agit puissamment. Une dernière conséquence que j'énumérerai, nous la trouvons dans l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de l'incrédulité. Ce serait dommage de passer toute une vie dans une église et à la fin de ne pas entrer en sa présence. Ce serait dommage d'avoir chanté des cantiques toute une vie et d'avoir en même temps vécu avec l'esprit du monde pour à la fin entendre « je ne vous ai jamais connu ». Quel drame! Mes amis, vous savez, je me suis rendu compte que souvent on me demandait de faire de l'évangélisation, mais parfois je me dis « mais il faut évangéliser les croyants à nouveau ». Hey, il y a un tas de croyants chez qui il faut à nouveau réveiller la foi, qui sont maintenant dans une routine, ça tourne depuis des années, et qui finalement, à la fin, sont capables de réagir, mais comme les 10 espions, parce que les 10 espions, ce soir, nous les jugeons, mais la question de fond, est-ce que nous sommes différents d'eux? Est-ce que nous réagissons différemment? Est-ce que nous faisons autrement?
Permettez-moi maintenant de passer à l'esprit de Caleb. Il est 25, on m'a dit et demi, j'ai encore 5 minutes. Je vais vous résumer l'esprit de Caleb en 5 minutes. Est-ce que vous me suivez encore 5 minutes? Qui me suit, hein? Puisque je sais que c'est des votations en Suisse, hein, donc je suis très soumis au pays. La Bible dit, Paul dit, faites-vous de tout à tous, donc voilà, merci. Et si jamais ça prend 7 minutes, est-ce que vous me suivez encore? Bon, finalement, c'est moi qui dois encore faire le trajet de retour, hein, c'est pas vous, hein. Écoutez bien, je répète, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Lors du rapport, Caleb et Josué font référence à l'Éternel. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà un esprit qui honore Dieu. Voilà un esprit qui tient compte de la présence de Dieu. Face à une même difficulté, vous pouvez ou alors mépriser ou alors honorer. Ils honoreront Dieu. Et ils diront, s'il est avec nous, alors le Dieu qui nous a libérés de l'Égypte, le Dieu qui nous a conduits dans le pays promis, eh bien nous permettra de le conquérir. Vous savez, les esprits rationnels veulent toujours réduire ce que Dieu fait. J'entendais un jour quelqu'un avec une grosse théorie me dire, monsieur, oui, ils ont passé la mer, parce qu'il y avait eu un tsunami, l'eau s'était retirée et il n'y avait plus que 15 centimètres. Je dis, mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que les autres se soient noyés dans 15 centimètres, c'est aussi un miracle, hein? Ah ouais? Ah ben oui. Et aller noyer un cheval dans 15 centimètres, faut y aller, hein? Ça c'est de l'acharnement, hein? Ça c'est l'esprit rationnel. L'esprit de Caleb est un esprit de foi, de confiance. Il connaît Dieu. Il a confiance en lui. Lui n'entrevoit pas ce qui est devant lui sans la présence de Dieu. L'homme de foi est un homme qui avance en connaissant Dieu et dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, Dieu a sa part, Dieu a sa place. Il ne se laisse pas effrayer. Regardez, il ne s'exprime pas en fonction des circonstances et des difficultés. Jamais dans le rapport. Ils vont s'arrêter à dire, oui, c'est des grands géants, oui, ce sont des hautes murailles. Jamais. Leur préoccupation, c'est si Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Notre problème ce soir, c'est pas de savoir qui est contre nous, notre problème c'est de nous assurer qu'il est avec nous. En fait, le vrai problème de ceux qui sont croyants, c'est pas ce qui est en face d'eux, c'est de s'assurer qu'il est avec eux et qu'ils ont la vie qui l'honore et qui lui permette d'être avec eux. Et quand vous avez compris ça, à ce moment-là, les choses changent. Vous savez, j'ai passé par un moment extrêmement difficile. Nous avons commencé à bâtir il y a 3 ans et nous avons utilisé en même temps un produit allemand qui était une nouveauté qui nous rendait énormément service, un plancher en bois béton qui permettait des portées de 11 mètres de long. Je m'arrête avec ce qui est technique. Et puis en même temps, on s'est dit, les pauvres Allemands, il faut quand même leur donner un peu de boulot. Hein, c'est pas... Mais voilà que le permis de construire nous a été donné, nous avons commencé à construire, on a fait les fondations, on a fait le gros œuvre. En tout cas, une partie, il y avait déjà à peu près 500 000 euros d'investis dans le béton. Quand tout d'un coup, les organismes de contrôle nous disent, impossible d'utiliser ce procédé, il n'a pas les agréments français. Alors on les appelait, on dit, mais il a les agréments européens. Oui, européens, mais pas français. Il dit, parce que la France, c'est en Afrique. Suivant les circonstances, nous, on change de continent. On en fait soit partie, soit plus partie. On est comme Monsieur Hollande, sous la visière. Je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Et puis, on s'est retrouvé enlisé dans une situation absolument terrible, puisque, très rapidement, l'ingénieur qui fait partie de la commission qui accorde les validations, venu de Paris, me dit, monsieur le pasteur, je vais vous éviter de perdre du temps et de dépenser de l'argent. Je veux simplement vous dire que vous n'aurez jamais la validation. C'est un projet qui fait 4 millions d'euros. Hein. Il y avait déjà 500 000 euros d'engagés. Et là, c'était terrible. Évidemment, dans ces moments-là, vous avez toujours l'un ou l'autre chrétien qui vient vous voir en vous disant, vous savez, frère, le Seigneur m'avait dit avant que ce n'était pas sa volonté. Et vous avez juste envie de lui imposer les mains façon Ancien Testament. pour lui dire « Faux prophète, si tu le savais avant, pourquoi tu le dis qu'après ?» L'ingénieur qui était le responsable de tous les calculs pour la structure, en pleine réunion avec l'architecte, me regarde et me dit « Monsieur Peter Schmidt, dans cette situation-là, je vous donne un conseil. Faites déjà maintenant à la mairie la demande du permis de démolition. » Alors, vous savez, au début, vous êtes plein d'entrain. Vous dites « Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, je l'ai fait parce que tu m'as dit de le faire. » Et c'est vraiment parce qu'il nous a dit de le faire qu'on l'a fait. On n'a pas bâti grand pour avoir grand. C'était vraiment jamais notre préoccupation, ce n'est pas encore aujourd'hui. C'est parce qu'il nous fallait de la place. Mais quand une semaine passe, deux semaines, votre foi, vous savez, votre foi, elle est toujours persévérante pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, elle est déjà durement éprouvée. Mais là, en l'occurrence, ça a duré 3 ans. 3 ans, notre bâtiment était arrêté. Et nous avons dit, Seigneur, tu nous as dit de le faire. Ça semble impossible de continuer le bâtiment avec ce système. Et comme tout était basé sur ce système, il fallait tout recommencer. Mais Seigneur, tu nous as dit de le faire, c'est toi qui nous as conduits. Maintenant, nous allons procéder comme si ces hommes ne nous avaient rien dit. Nous allons faire le dossier de demande d'agrément. Le dossier de demande d'agrément coûtait à lui seul 27 000 euros. Et ils nous ont tout de suite écrit, nous encaissons le chèque, mais ça ne veut pas dire que vous aurez l'autorisation. C'est ce qu'on appelle un hold-up administratif. C'est légal. Si vous faites la même chose, vous êtes condamné pour escroquerie. Évidemment que tout semblait impossible puisque celui qui était venu de Paris siégeait à la commission. Nous avons tout de même fait le dossier, ça a été envoyé. Et voilà que le jour où la commission s'est rassemblée, ce monsieur était absent. Et la commission nous a validé le plancher. Et là, nous sommes en train de terminer. L'homme de foi ne regarde pas les circonstances, il regarde au Dieu des circonstances. L'homme de foi ne se voit pas comme les hommes le voient, il se voit comme Dieu le voit. Si vous vous regardez comme vous êtes, alors vous finissez en vous disant que vous êtes comme des sauterelles. Mais si vous vous regardez comme Dieu vous voit, écoutez bien, en français, le texte est vraiment, comment dirais-je, édulcoré. Ils nous serviront de pâture. Bon, c'est joli ça. Hein, ça fait penser aux moutons dans le pâturage, ils vont sur la pâture. Moi j'aime la version allemande. Les Allemands et les Suisses allemands sont parfois un peu plus directs. Écoutez bien la manière dont c'est écrit dans la version allemande. Wir werden sie fressen wie Brot. En d'autres mots, pour le francophone, on va les bouffer. C'est exactement ce que ça veut dire, on va les bouffer. Et ça change, tout cru. Ça change. Dites, c'est une autre perspective, ça. Les uns se voient comme des sauterelles, les autres, face à la même épreuve. Et on va les bouffer. Pourquoi ? Parce que l'homme de foi, eh bien, ne compte pas avec ses forces à lui. L'homme de foi compte avec la force de Dieu. Les miracles, contrairement aux 10 espions, les miracles chez Caleb et Josué, les avaient amenés à une rencontre avec Dieu. Les signes et les prodiges sont simplement là pour nous indiquer une direction. Quelqu'un disait, le sage montre la direction du doigt et le fou regarde le doigt. Eh bien, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui fixent que le doigt de Dieu. Tout ce qu'ils cherchent, c'est le miracle, mais pas la direction qu'il indique. Le miracle, c'est un signe qui vous indique une direction. Je bénis Dieu lorsque ma mère a été miraculée, que mon père n'ait pas regardé le doigt, mais qu'il ait regardé la direction que ça lui indiquait. Et en regardant la direction, il a découvert le Seigneur. Ça a changé leur vie. Cela nous a bouleversés et cela nous a permis de rencontrer ce Dieu qui agit aujourd'hui encore. Mes amis, arrêtons de chercher uniquement le miracle. Cherchons le Dieu du miracle. Et si le Dieu du miracle est avec vous, les miracles auront lieu. Et si le Dieu du miracle est avec vous, alors, par conséquence, vous constaterez qu'il agit aujourd'hui encore. Permettez-moi de terminer en disant simplement ce que Caleb dira. Les conséquences pour Caleb. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Je le ferai entrer. Là où les autres n'entrent pas, lui rentre. Là où les incrédules n'entrent jamais, même dans les églises, vous, vous allez entrer. Vous avez des hommes et des femmes dans un même lieu qui ne vivent pas la même chose en ayant pourtant le même Dieu. Vous avez des terres spirituelles dans lesquelles certains ne sont jamais entrés alors que d'autres y triomphent. Pourquoi n'y sont-ils pas entrés ? Parce que Dieu leur interdit l'accès ?
à cause de leur incrédulité. Il est dit à Nazareth, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il ne guérit quelques malades. Mais même ça, à certains endroits, ça n'a plus lieu. Quelques malades. Pourquoi ? À cause de leur incrédulité. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, et c'est Caleb qu'il dit. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. C'est un homme de 85 ans qui parle. Qui a 85 ans ici, madame ? Bientôt, vous êtes encore jeune alors, hein ? Ah ben je vous félicite. D'ailleurs une info, elle va avoir 85 ans, vous pouvez lui faire un cadeau le mois prochain. Surtout l'amitié, oui. Oui, c'est surtout l'amitié. Mais à 85 ans, il y a encore de quoi faire. Écoutez, il continue en disant, je suis encore vigoureux comme au jour de Moïse, où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. 85 ans. L'homme de foi ne vieillit pas. La foi vieillit pas. À 85 ans, tu gardes la lucidité, tu gardes le courage du jeune que tu étais à 40 ans. À 85 ans, tu dis encore, donne-moi cette montagne, Dieu, et je vais la conquérir. Hello ! À 85 ans, tu n'as pas terminé. Je ne sais pas quelle est la montagne que vous devez prendre ce soir. Mais dis-lui, Seigneur, je veux te faire confiance. Et quelle que soit la montagne de difficulté, il te la donnera. Le pays était promis. Ce n'est pas parce que le pays est promis qu'il n'y aurait pas de difficulté. Parce que là, beaucoup de croyants se trompent. Ah, si je suis dans la volonté du Seigneur, tout va bien. Oui, tout va bien parce que tu es dans la volonté du Seigneur. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Hello ! Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Je savais que nous étions dans la volonté de Dieu avec la construction. Ça ne voulait pas dire que c'était facile. 40 ans de conquête. 45 ans même. Mais ils y sont entrés. Donne-moi cette montagne. Si vous voulez savoir si Dieu agit, eh bien commencez à lui dire, Seigneur, je veux avoir la foi. Je veux croire en toi. Je veux te faire confiance. Je ne veux plus compter sur moi-même, je ne veux plus croire en mes propres forces. Oh Dieu, je veux commencer à croire en toi. Oh Dieu, je ne veux pas seulement dire je crois en toi, je veux agir en conséquence. Ma foi, je veux la traduire quotidiennement 24 heures sur 24. Ma foi ne se résume pas à une déclaration, ma foi se résume à une manière de vivre. Ma foi se résume à l'expression de ta volonté dans ma vie quotidienne. Ma foi se résume à ne pas céder à la tentation, quelle qu'elle soit. La tentation... Mais il y a quelques temps de ça, j'ai été tenté. On m'avait prêté un véhicule et le pare-brise avait été cassé. Et puis pour que l'assurance fonctionne, ces assurances. Ah, ces assurances. Alors, le problème, c'est que c'était ambigu. La situation dans laquelle j'étais avec cette voiture faisait que si je présentais les choses d'une manière, j'étais remboursé. De l'autre manière, j'étais pas remboursé. Et alors, c'était extraordinaire parce que j'ai essayé de me convaincre moi-même. Alors, je me parlais. Je dis non, mais c'est quand même juste que c'était comme ça, j'ai essayé de me convaincre. J'ai fait passer la chose à l'assurance comme ça, en essayant de me convaincre. Et puis le dimanche matin, je devais mener la louange, et avant d'aller, j'avais prié, je dis, Seigneur, donne-moi une parole. Et puis là, je recevais, je ne sais plus quelle parole c'était, mais sur l'intégrité. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas monter sur l'estrade, même si c'est ambigu, même si c'est discutable, même si on pourrait dire que je te promets, demain, j'irai à l'assurance. Et le lendemain, je suis allé. J'ai dit, voilà, j'ai un problème, j'ai fait une déclaration, ceci, cela. Mais c'est ambigu. Alors, je sais comment ce sera pour vous. Pour vous, ce n'est pas ambigu. Pour l'assureur, c'est jamais ambigu, ça tombe toujours de son côté. Et là, il me regarde, il me dit, Monsieur Peter Schmidt, merci d'être venu. Vous êtes un bon client. Je dis, oui. Il dit, alors, eh bien, je vais faire un geste commercial. Nous prenons tout en charge. Et là, j'étais dégagé. C'est surtout le diable qui a dégagé. Mais attendez, la foi, ça se traduit constamment. Lorsque mon père avait eu son accident de voiture et qu'il était entre la vie et la mort, lorsqu'il s'est remis, il avait quelques problèmes respiratoires. Mais le Seigneur est intervenu et l'a touché. Cependant, les poumons ayant été perforés par une côte, Pour les médecins, ils lui disaient, vous ne trouverez plus, vous n'aurez plus jamais votre capacité respiratoire comme avant. Et alors, lui disait, mais Dieu m'a guéri, j'arrive à respirer. Il dit, oui, mais avec ce que vous aviez, vous pouvez. Et puis, alors, il lui disait, et si vous voulez la rente, puisque c'était un camion de l'armée qui lui était rentré dedans, ils avaient arrosé le départ, ce qui fait qu'à l'arrivée, ils ont fait des dégâts. Et là, le médecin lui dit, mais monsieur Peter Schmidt, vous n'aurez jamais la rente militaire à laquelle vous avez droit. Vous n'aurez jamais cette rente que l'armée doit vous verser si vous ne dites pas que vous n'avez plus les mêmes capacités respiratoires. Il disait, mais Dieu m'a touché. Et son avocat disait, monsieur Peter Schmidt, faites un effort. Faites un effort. Aidez-nous. Nous, on le fait pour vous. Vous savez, c'est là la tentation. Les gars sont là, ils disent, mais monsieur Peter Schmidt, c'est pour vous. Et le médecin disait, vous savez, aujourd'hui, vous avez le sentiment que ça va, mais peut-être demain, ça n'ira plus. Il dit, écoutez, non, moi, si on me demande, je dirais. Et puis, en effet, ils l'ont demandé. Et il dit, non, écoutez, je respire bien. Tout. Alors, bien sûr, le médecin était défait. L'avocat, lui, il n'y avait plus rien à plaider. Et puis donc, le jugement est donné. Aucune rente, rien, pas d'argent. Mais il me dira, tu sais Samuel, moi je préfère respirer à plein poumon que d'avoir une rente. Et le Seigneur me retire ce qu'il m'a donné. Et peu de temps après, l'armée a quand même décidé de lui accorder un truc qui n'était pas du tout prévu et qui faisait beaucoup plus que la rente qu'il lui aurait versée. Si vous êtes fidèle à Dieu, lui ne vous oubliera jamais. Jamais. Mais votre foi, c'est quotidiennement. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance et croyez que l'impossible est possible parce qu'à lui tout est possible. Et vous verrez qu'il agit aujourd'hui encore. On va peut-être fermer nos yeux et prier ensemble. L'incrédulité, j'aimerais le rappeler, c'est beaucoup plus profond encore que le fait de ne pas croire, mais c'est mépriser Dieu. C'est une attitude de mépris qui ensuite nous entraîne à faire toutes sortes de choses qui offensent Dieu. Et s'il y a autant d'hommes et de femmes chez qui rien ne se passe, c'est parce que souvent Dieu a été méprisé. Et la manière première de le mépriser, c'est de ne lui laisser aucune place dans nos vies, aucune. Il y a aujourd'hui toute une société qui se dit laïque, mais la laïcité pour eux ne signifie pas le respect de tous ceux qui croient, mais plutôt l'absence de Dieu. Et ce soir, il y a des hommes et des femmes qui peut-être sont là et Dieu est absent. Si vous éliminez Dieu de votre vie, alors vous éliminez la source de tous les secours de votre vie. Mais vous éliminez également la source de toute espérance et plus encore, le seul qui vous est réellement aimé. Si vous méprisez Dieu, alors vous serez réellement seul. Car le seul qui puisse être avec vous dans toutes les circonstances, et je vous assure, éventuellement demain soir, je vous partagerai ce que nous avons vécu avec l'un de nos fils, où nous avons connu un moment d'une intensité au niveau de l'épreuve telle que nous ne savions plus comment faire pour nous en sortir. Et le Seigneur est intervenu de manière extraordinaire. Et je bénis Dieu qu'il ait été au milieu de nous. Mes amis, vous n'imaginez pas à quel point vivre sans Dieu rend la vie difficile. Mais plus grave encore, vivre sans lui sur terre signifie un jour vivre sans lui dans l'éternité. Parce que pourquoi vaudriez-vous de Dieu dans le ciel alors que vous n'avez pas voulu de lui sur la terre? Et pourquoi lui devrait-il vouloir de vous là-bas alors que vous l'avez rejeté ici? Mes amis, ce soir, c'est avec beaucoup de compassion, mais également avec beaucoup de ferveur que je m'adresse à vous en disant, si vous n'avez pas encore, invitez le Seigneur dans votre vie. Oh, de grâce, faites-le. De grâce, faites-le. Ou si vous avez constaté ce soir que finalement vous êtes de ces hommes ou de ces femmes qui font des déclarations, je crois, mais dont la foi ne se traduit que par le fait d'assister à un culte le dimanche, ici ou ailleurs, et que dans finalement, la vie quotidienne, elle ne se manifeste pas par des actes concrets. Ne restez pas comme cela. Si vous constatez qu'il n'agit plus dans votre vie, oh de grâce, éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13, que chacun donc s'éprouve lui-même pour voir s'il est dans la foi. Éprouvez ce soir votre foi, afin de permettre à Dieu d'agir à nouveau. Je voudrais, alors que nous sommes là, nos yeux fermés, nous nous recueillons, chacun est individuel. Vous savez, l'Écriture dit, femme, que sais-tu si tu sauveras ton mari? Mari, que sais-tu si tu sauveras ta femme? La relation avec Dieu est une question personnelle. Le mari ne peut pas compter sur son épouse et l'épouse pas sur son mari. Bien sûr, nous pouvons prier l'un pour l'autre, mais la foi de ma femme ne me sauve pas. J'ai besoin, moi, de connaître le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui, ce soir, dit, Seigneur, tu m'as parlé. Je veux de tout mon cœur, comme Caleb, t'honorer et d'aucune manière ne plus te mépriser. Je veux croire et je veux laisser la foi se traduire dans mes actes quotidiens. S'il y a quelqu'un, pendant que nous avons nos yeux fermés, levez juste votre main, puis baissez-la et je prierai. Je prierai pour vous. Simplement, c'est devant le Seigneur, vous la baissez, vous la levez et vous la baissez. Oui, madame, oui, madame, oui, madame, oui, monsieur, oui, oui, madame. Nous sommes individuels devant Dieu. Oui, oui, madame, mademoiselle, oui, madame, oui, jeune homme, oui, madame. Nous sommes individuels devant Dieu. Je vais faire la chose suivante. Le temps étant passé, et je dois, malheureusement, je vais devoir partir, mais il y a ici des pasteurs. Je voudrais prier maintenant pour vous qui avez levé votre main, mais je voudrais vous inviter ensuite à venir voir le pasteur pour qu'il puisse prier avec vous individuellement. Pour moi, c'est trop important, c'est sûrement la chose la plus importante, que vous puissiez faire une démarche personnelle. Pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils font cette démarche. Pour d'autres, c'est le constat d'une tiédeur qui s'est installée, vous n'en voulez plus, vous voulez revenir à cette ferveur. Vous voulez que l'esprit de Caleb, cet esprit qui a animé cet homme-là, lui permettra à 85 ans de dire encore « Donne-moi cette montagne ». Que cet esprit de foi vous anime. Approchez-vous. Père, je bénis toutes ces précieuses personnes qui n'ont pas levé la main devant moi, mais qui l'ont levé devant toi. Toi, tu es témoin, tu es présent dans ce lieu maintenant. À toi, rien n'échappe. Tu es toujours au zénith de ta gloire. Au zénith de ton amour, au zénith de ta puissance. Et je te remercie parce que ceux qui s'approchent de toi, tu t'approches d'eux. Merci infiniment de venir les visiter par ton esprit. Ton esprit seul peut convaincre de péché, de justice, de jugement. Ton esprit seul peut amener un homme, une femme à la repentance profonde de son cœur. Ton esprit seul peut transformer. Et il le fait partout où un cœur s'ouvre. Fais-le, Seigneur, dans ton amour et dans ta grâce. Et Seigneur, je veux prier pour les malades, simplement, maintenant. Tu vois où ils se trouvent, tu vois quelles sont leurs attentes. Père, je te remercie de ce que, en Jésus-Christ, nous avons un merveilleux Sauveur, qui non seulement sur la croix porte nos péchés, expie nos fautes, se fait malédiction à notre place, mais par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, dit l'apôtre Pierre. Et nous voulons nous saisir de ces choses. Ce que tu as fait, Seigneur, pour cette dame qui, devant son écran, a été guérie après 11 années de cette maladie qui rongeait ses os, tu le fais pour eux. Tu n'as pas changé. En toi, il n'y a pas l'ombre d'une seule variation. Je bénis ton nom et je te loue de tout mon cœur. Sois glorifié, sois adoré. Amen. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'attendre demain soir pour voir le Seigneur agir. Croyez que c'est possible. Il est fidèle. Il est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour votre attention.